Alors la semaine dernière, le ministre du Travail, François Rebsamen, a proposé un nouveau projet de loi devant le Conseil des ministres, c'est ça ?
Cette loi fait suite à 4 mois de négociations qui révèlent l'échec du dialogue social français. Au départ, le projet était de mettre les différents syndicats autour d'une table et qu'ils discutent de l'harmonisation des seuils sociaux. Malgré les annonces fracassantes du MEDEF, il n'a jamais été question de supprimer ces seuils sociaux. Leur utilité est reconnue, cela soulage les toutes petites entreprises, qui sont en nombre en fait important en France. Néanmoins, les seuils sociaux français sont violents, il était question de les lisser, parce qu'ils sont très nombreux et pas toujours justifiés. En fait, les syndicats sont restés campés sur leur position, ce qui a mené à un échec des négociations, comme toujours en France d'ailleurs. C'est regrettable.
Un petit peu, oui.
Alors cela nuit en effet à la compétitivité française. Les négociations sont trop peu nombreuses et quand elles existent, sont trop centralisées. Un économiste français, une star, Thomas Philippon, avait estimé que bien plus que la complexité du code du travail français, les écarts de productivité entre pays développés, en particulier entre la France et l'Allemagne, pouvaient s'expliquer par, entre guillemets, la qualité des relations entre patronat et syndicats. En Allemagne, en effet, la cogestion est bien plus efficace.
Oui, c'est une idée connue, ça, mais pourquoi, du coup ?
Bon, tout d'abord, parce qu'il y a des obligations réciproques et des intérêts qui sont alignés, qui sont communs. Dès qu'on aligne les intérêts, la solution qui résulte d'une négociation sera plus efficiente que la situation antérieure. Par exemple, en Allemagne, les salariés sont représentés au conseil de surveillance des entreprises et ils y ont même une part non négligeable. Les discussions sont beaucoup moins centralisées qu'en France et elles sont du même fait beaucoup moins soumises à des positions politiques et les personnes concernées par les accords exerçant des fonctions relativement homogènes, cela facilite l'accord. De plus, contrairement au cas français, les syndicats salariés et patronaux sont vraiment représentatifs.
Et donc, après l'échec des négociations, c'est par la loi que le gouvernement a décidé de passer. Et on se profile vers quoi alors ?
Alors, le projet comporte principalement 2 volets. Le premier traite de la question des seuils sociaux et le deuxième de la prime d'activité. Alors, commençons par les seuils sociaux. De ce côté, il n'y a ni révolution, ni en fait véritable évolution. Et on a quelques changements très très marginaux. Il était question d'harmoniser les représentations du personnel. Aujourd'hui, en France, il existe 3 instances principales. Le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'hygiène et de sécurité. Il y aurait eu quelques gains à rapprocher ces 3 instances. Et au fond, il n'y a pas de désaccord sur la question tant que les prérogatives ne changent pas. Mais en fait, rien n'a bougé de ce côté-là. L'objectif de la loi est surtout de ne mécontenter personne.
Le gouvernement n'a plus grand monde à mécontenter de toute façon, je crois.
Voilà, ce qui fait en fait qu'en ne mécontentant personne, on ne change pas grand-chose. Il y a quelques aspects positifs tout de même dans la loi, comme un renforcement de la représentation des salariés des plus petites entreprises qui vont être représentés à l'échelle régionale. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose.
Et du coup, elle sert à quoi cette loi ?
C'est surtout une loi politique.
Ah oui.
Un discours.
Évidemment.
Voilà, il s'agit de dire à la Commission européenne que l'on fait des réformes structurelles, mais surtout de ne pas mécontenter le PS qui organise son congrès bientôt.
Et oui.
Et ensuite, les différents syndicaux qui sont déjà sur les nerfs. L'économie n'y est hélas pas gagnante, puisque sur le fond, on ne touche pas aux structures.
Et pour le deuxième volet dont tu parlais, à savoir la prime d'activité, quel est le projet ?
Alors là encore, il y a le discours et la réalité. Cela d'ailleurs me mène à me poser des questions sur les compétences économiques de nos journalistes qui ne se sont pas vraiment interrogés sur cette partie du projet, à l'exception de, comme toujours, l'excellente émission « L'économie en question » de France Culture. Voilà, parenthèse refermée. Le projet est, à partir de la fusion de 2 allocations d'une nature différente, d'augmenter le nombre de bénéficiaires d'environ 200 000 personnes sans dépenser un centime de plus.
Ah oui ! Et c'est possible comment un tel miracle ?
Pour comprendre comment cela est possible, il faut détailler en fait le projet de loi. Il faut vraiment rentrer dedans. Il s'agit de fusionner 2 allocations qui ne fonctionnent pas bien. De l'avis général des économistes, il fallait une réforme. Mais pourtant, celle qui est menée provoque un mécontentement général. D'un côté, on a le RSA Activité, qui de l'aveu même de son créateur, Martin Hirsch, est un échec. Il s'agissait d'une allocation mensuelle. Comme le RSA est une prestation familiale et non individualisée, il faut en faire la demande auprès d'une caisse d'allocation. Or, les personnes concernées, mal informées ou ayant peur du stigmate de demander l'aide, ne la demandaient pas. Le taux de recours est de seulement 50%, c'est-à-dire qu'une personne sur 2 qui a le droit à cette allocation ne la demande pas. Or, le principe du RSA activité repose sur l'impôt négatif. Si vous ne travaillez pas et vivez seul, vous avez d'abord le droit à 500 euros inconditionnellement, c'est le RSA socle. Et si vous avez des revenus d'activité, votre prestation de RSA va diminuer, mais moins que proportionnellement. Pour chaque euro que vous touchez via vos revenus du travail, en fait, la prestation va diminuer de 38 centimes. Il s'agissait de réduire le taux marginal implicite d'imposition entre le passage de l'inactivité à l'activité. Passer par exemple d'une allocation sans activité à 500 euros par mois à un temps partiel payé au SMIC, imaginons de 600 euros, soit une différence de 100 euros pour un travail d'une vingtaine d'heures par semaine. Or que grâce au RSA activité, on vous garantit 500 euros, qui sont le RSA socle, plus, alors là, il faut faire un peu de maths, 0,62 fois 600 euros. Clément, tu as la réponse de tête ? Oh, tu étais presque, 372 euros.
C'est gentil, Lino. tu as vu ma tête déconfite, c'est gentil, j'apprécie.
Voilà. Donc, 500 plus 372, ça fait 872. Donc, on vous garantit 872 euros. Et en fait, on va retrancher vos revenus, 600 euros, ce qui va vous faire une allocation RSA activité de 272 euros. Le mode de calcul est un peu complexe.
Effectivement, voilà. C'est un petit peu complexe.
Voilà, et ce qui explique en partie l'échec de cette allocation. En résumé, l'idée sur le papier, elle est bonne pour éviter qu'une trappe à inactivité, mais la mise en œuvre a été mauvaise, faute en particulier de moyens et d'informations.
Et la prime pour l'emploi est reposée sur quelle base, elle ?
Alors, l'objectif était assez proche, même s'il était un peu différent, mais les modalités sont très différentes. Par exemple, le RSA activité, il est maximum autour de 0,7 SMIC. Hein. Je vais pas refaire des calculs. Alors que la prime pour l'emploi, elle était maximum à la hauteur d'un SMIC. Sur le fonctionnement, la prime pour l'emploi n'était pas une allocation dégressive comme l'était le RSA, mais un crédit d'impôt. Donc, le taux de recours était de 100% puisque toute personne qui déclarait ses revenus découvrait, lorsqu'elle remplissait sa feuille d'impôt, si oui ou non elle y avait le droit. Le problème, c'était qu'elle était versée avec un an de retard. Par exemple, pour les revenus de 2013, la déclaration d'impôt a lieu en mai 2014. Donc vous receviez en mai 2014 une prime au titre des revenus de l'année 2013. Bon, donc ce qui faisait que la prime pour l'emploi ne marchait pas. Mais au moins, le recours était de 100%.
Comment on va concilier ces deux allocations qui sont quand même très différentes ?
Alors, le projet est que la prime d'activité reprenne le barème universel du RSA activité. À cela s'ajouterait un bonus individualisé sur le modèle de la prime pour l'emploi. Alors, comme c'est une prestation sociale, la nouvelle prime pour l'activité devrait être demandée. Le barème étant celui du RSA, les jeunes et les apprentis peuvent en bénéficier, ce qui, d'après les déclarations du président et des ministres concernés, représenterait environ 200 000 personnes. Alors comment cela est-il possible sans dépenser un centime de plus ? Et en fait, grâce au non-recours. Le gouvernement anticipe le taux élevé de non-recours de l'ordre de 50% pour pouvoir dépenser autant tout en ouvrant à plus de gens son allocation. Bien sûr, ce tour de prestidigitateur n'est pas annoncé comme objectif.
Oui, donc on a un gouvernement qui fait de la magie, qui fusionne des choses pour en donner moins. Bref, bon. Et cette prime d'activité est annoncée comme un progrès pour les jeunes. Est-ce que c'est le cas au moins ici ?
Ah non, même pas sur ce point, car cela va en fait inciter beaucoup de jeunes à travailler plus. Il y a en effet un important effet de seuil, puisqu'en dessous de 0,8 SMIC, ou à peu près 800 euros par mois, les apprentis et les étudiants n'ont rien. Donc pour ceux qui travaillent à temps partiel, par exemple 0,6 SMIC, l'effet de seuil incite fortement à travailler plus, et voire même à temps plein. Cela nuit bien sûr énormément aux résultats scolaires.
Résultats scolaires dans lesquels on n'investit pas assez en France, tu nous le dis assez souvent.